Je vous invite à la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Nous lirons ensemble à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 24. L'évangile de Luc, chapitre 14. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités : Venez, car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. Un autre dit : Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Le serviteur de retour rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de maison s'irrita et dit à son serviteur : Va promptement sur toutes les places, dans les rues et la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va par les chemins le long des haies et contraint les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Jusqu'ici, notre lecture. Jésus est invité chez un chef religieux juif, un pharisien. Il est invité au repas. Et lors de ce repas, Jésus invite ceux qui étaient autour de lui à exercer leur générosité bien au-delà du cercle de la famille ou des amis. Et il les invite à inviter à leur table des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et en leur disant, en agissant de cette manière-là, vous serez rétribués à la résurrection des justes. C'est le contexte avant juste la lecture de notre passage. Et en entendant cette parole, cet enseignement de Jésus, l'un de ses convives dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. D'une manière générale, le repas est un lieu de communion, est un lieu de partage, et surtout dans la culture du Proche-Orient ancien. Autour des repas, beaucoup de bonnes choses se vivent parmi les participants. Il y a des liens qui se créent les uns avec les autres. Il y a aussi des liens qui les engagent les uns vis-à-vis des autres. Et c'est aussi vrai, ce qui est vrai entre les hommes l'est aussi entre Dieu et les hommes dans ce cas précis. Souvent, quand on parle du repas de Dieu ou le repas du Seigneur, c'est pour évoquer l'idée que Dieu réunit des hommes à sa table pour qu'ils mangent en sa présence. C'est le cas, par exemple, des sacrifices de communion offerts à Dieu pour exprimer la reconnaissance. Mais le repas de Dieu revient régulièrement dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour évoquer le festin, le banquet que Dieu offrira lorsqu'il interviendra pour sauver l'humanité. Et c'est ce festin annoncé par le prophète Isaïe au chapitre 25 que nous avons lu tout à l'heure, les versets que nous avons lus tout à l'heure. Et c'est dans cette promesse ou dans cette annonce, Isaïe annonce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui prépare lui-même ce festin. Il prépare ce festin pour tous les peuples, pour toutes les nations. C'est lui qui déchirera le voile de l'ignorance qui couvre les peuples, qui empêche les peuples de voir en lui le Seigneur. C'est lui qui fera disparaître la mort à tout jamais. C'est lui qui essuiera les larmes sur tous les visages. En ce jour-là, les participants à ce festin diront « soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous du salut de notre Dieu. Ce festin royal sera ouvert à tous ceux qui veulent répondre favorablement à l'invitation du Seigneur, sans distinction de race, de sexe, ni de position sociale. Juifs et non-juifs, hommes et femmes, riches et pauvres, seront tous invités à ce festin. Ce qui fera la différence, c'est la réponse des invités. C'est la réponse, c'est à eux de donner une suite favorable à cette invitation. Mais du temps de Jésus, les religieux de son époque ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Par exemple, si on considère les disciples d'une communauté, la communauté de Qumran, l'une des communautés religieuses du temps de Jésus, ils considèrent que ce festin ne sera ouvert qu'aux Juifs, et en plus aux Juifs qui ne représentent pas d'imperfection morale ou physique quelconque. Par exemple, qu'ils ne soient pas infirmes, qu'ils ne soient pas aveugles, qu'ils ne soient pas sourds, qu'ils ne soient pas estropiés, etc. Donc, pour ces religieux-là, seuls certains nombres de privilégiés ont le droit à ce festin royal que Dieu, et par lequel Dieu inaugurera sa venue, son salut pour toujours. Et à la lumière de ces enseignements qui circulaient au temps de Jésus, on peut bien comprendre la déclaration de cet homme, de ce convive autour de la table qui dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Jésus saisit cette occasion pour délivrer une parabole où il va montrer que la table du Seigneur est ouverte à tous. Il suffit simplement de répondre favorablement. Jésus dit un homme donna un grand festin, un grand repas, et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur aux invités pour leur dire « Venez, tout est déjà prêt ». Rien n'est dit sur cet homme, ni sur son statut social. Néanmoins, s'il est capable d'inviter autant de monde, beaucoup de gens à sa table, donc il devait être un homme aisé. Lors de ce repas, on invitait seulement des hommes et des gens de sa classe sociale. C'est un repas qu'on organisait souvent à la fin de l'après-midi, enfin une journée, après une journée de travail. Les invitations à ce genre de festin se font en deux temps. Dans un premier temps, la première invitation est adressée quelques semaines auparavant. Et lorsque la deuxième invitation, c'est l'invitation où les gens répondent s'ils viennent ou ils ne viennent pas. Et la deuxième invitation, c'est une invitation qui se fait une fois que le repas est déjà prêt. C'est juste une invitation de rappel pour que les gens viennent et profiter de ce repas qui les attendait. Cette pratique existait au Moyen-Orient, même elle existe jusqu'à maintenant dans certaines régions du monde. Et je peux penser en Algérie, par exemple, les repas de mariage de noces se font exactement sur ce modèle. Il y a des invitations lancées quelques semaines auparavant, et le jour J, une fois que le repas est prêt, on envoie aussi quelqu'un qui va rappeler. Donc lancer cette deuxième invitation, c'est une invitation de confirmation. Justement, pour l'homme de notre parabole, beaucoup de gens ont répondu favorablement à la première invitation. Et en répondant à cette première invitation, les convives s'engagent à honorer l'hôte par leur présence. C'est en fonction des réponses obtenues, des réponses favorables, que les préparatifs se sont organisés. L'hôte a dû débourser beaucoup d'argent, mobiliser beaucoup de ses serviteurs pour que tout soit prêt le jour de festin. Car il n'y a pas de plus grande honte, comme d'ailleurs dans toutes les cultures où l'hospitalité est presque sacrée, que de se retrouver avec des invités, des convives qui sont là, sans que le repas soit prêt. Donc, l'homme de notre parabole a fait tout le nécessaire pour que le repas soit prêt, pour que le festin soit prêt. L'homme de notre parabole a honoré son engagement vis-à-vis de ses invités. Le jour J, tout est prêt. Après une journée de travail, à l'heure du repas, comme d'habitude, comme à la coutume, l'homme dit à son serviteur d'y aller chercher les invités en leur disant « Venez, tout est prêt ». Contre toute attente, l'homme dans notre parabole essuie un refus unanime. Et pourtant, tous ont répondu favorablement à la première invitation. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui s'est donné pleinement pour que tu sois prêt. En effet, on s'attendait à une réponse affirmative, on s'attendait à une réponse même empressée qui joindrait le geste à la parole engagée quelques semaines auparavant. Mais rien ne se passe comme prévu. Refuser d'ailleurs un repas à la dernière minute constitue une offense grave à l'encontre de celui qui invite de l'hôte. Jésus ne donne pas les excuses avancées par tous, mais il retient trois réactions simplement. La réaction du premier, le premier s'excuse parce qu'il est contraint, dit-il, d'aller voir un champ qu'il avait acheté auparavant. Quelle excuse ! Elle est loin d'avoir un fondement solide. Qui achèterait un champ avant de l'avoir regardé, avant de l'avoir déjà examiné, de l'avoir vérifié tous ses recoins ? C'est comme si quelqu'un achèterait une maison sans l'avoir visitée. Ceci dit, il est vrai que dans notre temps, avec Internet, on pourrait voir des maisons même en détail. Mais bon, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas le cas. Plus encore, dans le Proche-Orient ancien, on a découvert que l'acte de vente, l'acte d'achat, le contrat de vente, mentionne même les courants d'eau qu'il y a dans le champ. Il mentionne même les nombres d'arbres qu'il y a dans le champ. Donc c'était incompréhensible pour cet homme d'acheter un terrain avant de l'avoir visité. Comment se fait-il, il va signer sur le nombre d'arbres s'il n'a pas vérifié combien il y en a et combien il y en avait. Donc l'excuse de cet homme, l'excuse avancée par cet homme, laisse à désirer. Le deuxième invité ne fera pas mieux. Il dit avoir acheté 5 paires de bœufs qu'il allait essayer. Tous les auditeurs de Jésus savent que personne n'achète des paires de bœufs sans avoir fait quelques vérifications primordiales. Vérifier si la paire fonctionne ensemble. On ne peut pas acheter 2 bœufs s'ils ne travaillent pas ensemble. Sinon, ils ne pourraient pas travailler ensemble. Chacun tirera de son côté. Ça, c'est la moindre des choses que vérifie quelqu'un qui achète une paire de bœufs pour travailler. On vérifie si l'animal, il voit correctement. On fait quelques vérifications avant d'acheter. Vérifier, donc, faire toutes ces vérifications se font bien avant l'achat. Et si ce deuxième invité n'a même pas pris le temps, en fait, de trouver une excuse qui pourrait cacher un petit peu sa mauvaise foi, en quelque sorte, il montre très volontairement qu'il était en train de poser un lapin à son invité et à son hôte, celui qui l'a invité. Le troisième invité dépasse complètement toutes les limites par son excuse. Il dit qu'il vient juste de se marier. Or, un tel événement, un mariage, un tel événement, ne pourrait pas ne pas parvenir aux oreilles de l'homme dans notre parabole. Nous n'avons pas affaire ici à une grande ville comme Paris. Nous avons affaire à une petite ville, voire un petit village. Tous les événements importants sont à la connaissance de la plupart des habitants. Habituellement, on évite d'organiser 2 festins au même moment, 2 festins aussi importants au même moment. D'une part, parce que les invités seront les mêmes, et d'autre part, on veut bien faire profiter aux invités 2 repas et non pas les partager en 2 pour qu'ils aient pas la totalité de leur invité. Donc l'excuse avancée par ce troisième n'est pas meilleure que celle avancée par les 2 premiers, mais bien au contraire, elle est pire. Les réponses successives sont aussi de plus en plus impolies. Le premier dit clairement qu'il est contraint de partir, et par la suite, il présente ses excuses. Le deuxième, il ne se contente même pas de mentionner qu'il est contraint d'aller vérifier ses paires de bœufs. Il dit simplement « excusez-moi ». Mais le troisième ne dit ni la contrainte ni l'excuse. Si le premier présente une forme de politesse, le dernier ajoute à la grossièreté l'insulte. Les auditeurs de Jésus n'ont aucune peine à voir derrière cette parabole l'image de Dieu qui invite les hommes à sa table, qui invite les hommes à sa table pour le festin, pour bénéficier de tous les bienfaits qu'il place à leur disposition. Mais hélas, ces premiers conviés ont refusé l'invitation de Dieu. Ils ont rejeté la générosité de leur Dieu. Chacun a avancé une excuse, des excuses vides de sens, les unes que les autres. Et nous ? Et nous, que faisons-nous de l'invitation que Dieu nous adresse ? Répondons-nous régulièrement à ces invitations ou bien trouvons-nous toujours des excuses pour ne pas nous rassembler autour de lui et être en communion avec lui ? La première application que nous pouvons tirer ici, c'est que concernait notre réponse initiale à l'invitation de Dieu pour être en communion avec lui, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, cette invitation que Dieu nous adresse, en Jésus-Christ, de croire en lui pour profiter de ce festin de salut qu'il nous offre. Je ne peux qu'encourager ceux et celles qui sont de passage parmi nous, qui n'ont pas encore répondu à cette invitation que Dieu nous adresse, vous adresse en Jésus-Christ. Je ne peux que vous encourager à répondre à cette invitation, à laisser tomber toutes ces excuses que vous pourriez éventuellement trouver, car à vrai dire, aucune excuse, à mon sens, ne peut être valable face à l'invitation que Dieu adresse à l'être humain en Jésus-Christ. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, notre frère Zacharie a dû répondre lui aussi favorablement à cette invitation. En lisant l'évangile de Jean, il a compris cette invitation et il a cru en Jésus. De cette manière, Jésus est devenu pour lui son sauveur et bien sûr son Seigneur également. Par son baptême, Zacharie a exprimé publiquement ce qu'est cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur au fond de son cœur et de sa vie. Et aujourd'hui, il jouit d'une communion personnelle et aussi communautaire avec le Seigneur. Tel est le festin auquel il a pris part, tel est le salut dont il est bénéficiaire. Chers amis, ne continuez pas à adopter l'attitude de ces convives qui ont refusé l'invitation généreuse du Seigneur. Sachez que le Seigneur est prêt à vous accueillir à sa table et vous faire bénéficier de la joie de son salut, de la joie de son festin. Le refus de l'invitation a mis l'homme dans notre parabole en colère. Il ne s'agit pas d'une simple irritation, mais d'une réelle colère. Elle a mis dans une réelle colère car il se retrouve avec un repas prêt, un festin prêt, mais sans les convives. Trois possibilités s'offrent à cet homme. Soit châtier les convives, parce que de toute manière, se sont engagés à la première invitation. C'est d'ailleurs ce que fera le roi de la parabole juste parallèle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Le roi va châtier tout simplement les convives qui ont répondu et qui n'ont, dans un premier temps et dans un deuxième temps, qui n'ont pas honoré leur réponse. La deuxième possibilité, c'est de remettre tout simplement son festin à une date ultérieure. Et la troisième possibilité, c'est de faire le nécessaire pour que le festin ait lieu quand même. Et l'homme de notre parabole choisit cette troisième possibilité. La première chose qu'il fait, c'est de donner des consignes à son serviteur. Il lui dit « Va promptement sur les places, dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Amène-les pour profiter de mon festin. » Les délaissés de la société, les rejetés de la société sont conviés maintenant à participer au festin. Contrairement aux premiers convives, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux vont répondre favorablement à l'invitation. Ils sont venus au festin et la fête peut commencer. La fête peut commencer. Les premiers convives pouvaient penser que sans eux, il n'y aurait pas de fête. Mais ici, le maître de la maison leur montre contrairement que clairement qu'il n'en est pas question. Avec ou sans eux, le festin aura lieu, la fête aura lieu. Rappelons au passage qu'ici, l'homme de la parabole va inviter les gens qui ont été exclus par les bons et par les religieux, considérés comme impurs, n'ayant pas leur place dans un festin. Et là, dans le festin messianique, pardon. Et là, l'homme de notre parabole, c'est eux qui l'invitent. Et comme il y a encore de la place, le maître dit à son serviteur, parle le long des haies, contraint les gens d'entrer afin que ma place soit remplie. Question ici des gens tout court, de tous ceux que le serviteur allait croiser sur son chemin. Le maître demande à son serviteur contraint les gens d'entrer, c'est-à-dire de mettre toute sa force de persuasion pour convaincre les gens et pour les faire venir à la maison de son maître. Si le serviteur doit mettre ses talents de persuasion en œuvre, parce que les gens modestes, de basse condition, n'acceptent pas facilement une invitation venant de quelqu'un d'important. Passage, entre parenthèses, certains ont vu une allusion ici en disant, ont essayé de justifier l'idée qu'on pourrait utiliser la force pour convaincre les gens. Or, dans ce texte, il n'est pas question d'utilisation de la force, bien au contraire, c'est une manière de dire que les gens d'une basse condition, pour qu'ils acceptent l'invitation venant de quelqu'un d'important, il faut qu'ils soient vraiment encouragés. Quand on invite quelqu'un chez soi, surtout s'il est de condition, comme je disais, inférieure, on doit lui montrer que l'invitation est sincère et on doit lui montrer qu'on tient réellement à ce qu'il accepte notre invitation. Il faut en quelque sorte lui arracher, entre guillemets, son consentement par une insistance, bien sûr, amicale et bienveillante, qui, au passage, pourrait s'accompagner par ses besoins, hein, par un bras passé au cours des épaules, ou je ne sais pas, ça dépend les régions où on vit. Si le maître veut remplir sa maison, ce n'est pas par égoïsme, mais parce qu'il veut simplement que tous les habitants du village profitent de sa fête. Il veut les voir manger de son repas, de son bon repas, boire de son bon vin. Et il veut voir tous les habitants de sa ville, ses festivités, et passer une agréable fin de journée. Cette douzième scène exprime la générosité de maître de maison, générosité offerte à tous. Si pour les religieux de l'époque, en particulier les disciples de Comte, comme je disais, les aveugles, les sourds, les estropiés, leur place parmi eux, pour Jésus, ce sont eux qu'il est venu sauver et délivrer. L'évangile de Jésus se sert des paroles du fatigué pour présenter dès le début son terre, sa mission, où il indique très clairement qu'il est venu rejoindre les gens dans leurs besoins. Les gens dans leurs besoins, il dit, c'est au chapitre 4, les versets 19 de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, renvoyer libre, donner la liberté aux opprimés et proclamer de grâce de la part du Seigneur. Voilà comment Jésus présente sa mission. Rejoindre les gens dans leurs besoins, ces gens exclus, rejetés. Avec cette conscience de son et de ceux qui sont dans le besoin, il n'est pas étonnant que Jésus demande à ceux qui étaient à table avant de délivrer cette parabole d'inviter aussi les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais dire à ceux qui se sentent justement rejetés par les religieux parce qu'ils n'étaient pas considérés assez saints, par la société, rejetés à cause de leur handicap moral, spirituel, physique, que Jésus veut bien vous accueillir à sa table. J'aimerais vous dire qu'il y a une place dans le cœur de Jésus. Il y a une place pour vous. Mais j'aimerais aussi vous dire que personne d'autre ne peut répondre à votre place à cette invitation. Et les questions ici d'une invitation personnelle, ni un ami, ni un parent, ni un enfant ne peut répondre à votre place. C'est à vous que Jésus adresse cette invitation et c'est à vous de répondre. Cette invitation est aussi adressée à tous et pas simplement aux malades et aux rejetés. Que vous soyez malade ou pas, que vous soyez rejeté ou pas, que vous soyez riche ou pauvre, peu importe votre situation, cette invitation est pour vous. Jésus vous invite à sa table pour avoir la vie et la vie en abondance. J'aimerais m'adresser aux serviteurs du Maître, c'est-à-dire à nous qui sommes chrétiens. J'aimerais nous encourager à faire tout pour conduire ceux qui nous entourent dans la maison du Maître. Bien sûr, à prier pour eux. Qui d'autre que l'Esprit de Dieu peut convaincre de péché? Prions pour participer à cette œuvre que Dieu fait dans le cœur pour que la personne réponde favorablement à l'appel que Dieu lui adresse par Jésus-Christ. Allons les chercher. Ne restons pas simplement en train de passer des nuits de prière, mais allons sur les places, dans les rues de la ville, allons dans les chemins le long des haies, allons là où ils se trouvent pour les chercher. Ils nous attendent. Ils nous attendent, ils attendent les serviteurs du Maître qui pourraient les accompagner, les inviter à la table du Seigneur, qui pourraient les inviter à entrer dans la maison du Seigneur. Invitons-les. N'ayons pas honte de les inviter. Invitons-les à venir au festin, car des places sont encore libres. Et le Seigneur veut que sa maison soit remplie. Il veut faire participer beaucoup de personnes à sa fête. Il y a une grande joie pour un pécheur qui se repentit, dira Jésus dans le chapitre suivant. N'hésitons pas à les inviter à la table du Seigneur, au festin du Seigneur. Pourquoi les chrétiens doivent-ils se mobiliser pour faire entendre, pour faire entrer les gens dans la maison du Maître, dans la maison du Seigneur? Pourquoi les non-chrétiens appelés à répondre à l'invitation du Seigneur Jésus le plus rapidement possible? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Tous ceux qui adopteront la même attitude que les premiers convives, c'est-à-dire qui refuseront l'invitation, ils ne goûteront pas tout simplement au repas du Seigneur, ne goûteront pas au festin du Seigneur, ne goûteront pas au salut du Seigneur. L'enjeu est de taille. C'est pourquoi, autant chrétiens, nous sommes appelés à nous sentir responsables de cette tâche de serviteur de notre Maître. Tout comme les non-chrétiens qui sont parmi nous ce matin sont aussi appelés à considérer cette invitation d'une manière sérieuse. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est pourquoi, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcis pas votre cœur. Que le Seigneur nous aide donc tous, chrétiens et non-chrétiens, à entendre ce matin sa voix. Nous, chrétiens, pour le servir et nous inscrire dans cette démarche d'accompagner les autres vers la maison du Seigneur, pour ceux qui ne le sont pas encore, à répondre favorablement à cette belle invitation de notre Seigneur. Amen.